battant.
Le podcast de tous les aidants, présenté par Christelle Evita
et Laurent François.
Qu'importe le chiffre, c'est énorme. Mais quand tu as des gens qui rapportent autant, qui font économiser, quelque part tu rapportes 186 milliards ou quel que soit le nombre de milliards, ils sont plus de 100, et que personne ne les entend, parce qu'eux-mêmes ont peur de parler. Je veux bien, tout ce que tu dis est vrai, je t'ai poussé dans tes retranchements volontairement, parce que ça commence à me fatiguer de voir toutes ces entreprises qui ne foutent strictement rien. Il y en aura bien quelques-unes, tu en as cité deux et je dis bravo, et Casino, tu avais raison, dès le milieu des années 2010, ils l'ont fait. Et c'était sensationnel. Mais ça n'est pas assez. C'est pas assez. Et j'attends des entreprises qui ne bougeront que lorsque les politiques auront bougé. Et tu as raison, ce sont les collectifs, ce sont les aidants eux-mêmes qui à un moment vont les taper à la porte.
Mais ce sera les aidants. Mais moi, j'ai bougé parce que j'ai compris que j'étais aidante à 37 ans. Et j'en ai 46. Ça fait 9 ans que j'agis dans ce sens où j'ai déjà, en tant que journaliste, parlé de ce sujet. Après, je suis passée à l'action. En fait, j'écris ces livres. Et puis après, je suis passée à l'action parce que c'est quelque chose qui dysfonctionne. Si moi-même, je porte pas, moi, ma voix auprès des structures, des entreprises et ailleurs, les choses ne bougeront pas. Et je reviens sur cette prise de conscience. C'est les aidants qui agissent dans ce sens-là. C'est important. Et ce que je voudrais dire aussi, on parlait des aidants qui sont piliers. Là, on est en tension au niveau des métiers de soins. On va orienter les aidants vers ces métiers de soins. Mais moi, personnellement, j'ai pas envie, en fait.
Merci. Je ne supporte pas, effectivement, cette bascule discrète qu'on est en train de nous faire faire.
Donc, qu'on nous dise qu'on n'a que ce choix-là, moi, j'aspire à autre chose. J'aspire, oui, j'ai fait mon métier, le fait d'être dans un métier d'accompagnement, de conseil avec Sigrid, de sensibiliser les entreprises, de aussi d'apporter des formations, d'être dans ce travail de fond. Mais je sais que ça a quelque chose qui moi, nous porte. On sait qu'on peut, avec notre expérience, faire bouger les lignes. C'est du travail, c'est un travail de fond. On a la foi, on est convaincu par ce qu'on propose. Mais sinon, à part ça, je veux dire, moi, si j'avais la possibilité de ne pas être dans le soin, je ne serais pas dans le soin. Parce que j'aspire, par rapport à mon expérience, j'ai développé des compétences qui peuvent être utiles dans d'autres métiers.
Bien sûr.
Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? En plus d'accompagner mon proche, je ne peux pas être cantonnée à cette casquette d'aidant où je suis que dans le soin, où je vais pallier le manque de personnel dans les métiers de soins, où je serai bonne, entre guillemets, qu'à ça. Et pas autre chose. On ne donne pas d'autres possibilités, on n'ouvre pas mes horizons. Et ça participe à l'enfermement aussi.
Et nous, les mecs, on est où? La plupart du temps, c'est une femme qui est aidante, de son fils, de son mari, de ses parents, comme toi. Elle est souvent seule. Et je me demande, où sont les hommes?
Moi, c'est la question que je me pose, c'est la grande question. Les femmes s'investissent beaucoup. Ça fait, je dis pas si c'est culturel ou pas, c'est la façon dont on a été conditionné d'être un peu les piliers de la famille. Mais les hommes s'investissent, on les entend pas. Où ils sont-ils? Pourquoi ne parlent-ils pas? Les femmes ont plus ce courage-là d'en parler, moins les hommes, pourquoi? J'ai pas de réponse, je suis pas dans la peau d'un homme, en fait. Ça vient d'où?
Ah, je vais te dire, c'est extrêmement simple. Quand tu es un mec, tu aimes ton boulot, tu aimes gagner du blé, tu aimes conquérir, et être aidant, c'est pas du tout être conquérant. C'est être asservi, c'est ça, en fait. Je pense que la plupart des hommes pensent ainsi. Ils en ont globalement pas grand-chose à faire. De toute façon, Bobonne fera le boulot à leur place. C'est malheureux, ce que je vous dis. Ça peut paraître très beauf, pardonnez-moi, chères auditrices, chers auditeurs, mais j'ai deux femmes en face de moi. Vous êtes défoncées, et vous vous défoncerez encore un certain temps. Je souhaite évidemment que ta maman Christelle et tes parents, Marina, vivent le plus longtemps possible, dans la meilleure santé qui soit. Mais la réalité du sport, c'est que la plupart des hommes, ils ont pas envie de s'emmerder avec ça. Et que les femmes le font, comme tu l'as dit peut-être, justement, ou j'espère que ce serait injustement, à savoir que les petites filles sont plutôt habituées dès le début à porter la culotte, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est le papa d'une petite fille, et gaga de sa petite fille, qui vous en parle. Je trouve ça, en tant que mec, absolument abominable. En ce sens que, tant qu'il y aura pas, et je vais vous le dire très honnêtement, et pardon pour ce monologue. Tant qu'il n'y aura pas un homme politique, un mec, comme moi, qui fera passer une loi, je vous le dis, il se passera strictement rien vis-à-vis des aidants. Ce sera des rustines, ce sera des petites lois à deux balles. Mais tant qu'il n'y aura pas un monsieur politique qui sera élu à très haut niveau, je mets ma main à couper que ça va mettre 8000 ans à bouger. Alors, désolé encore une fois pour la tirade, hein, et j'espère ne pas être parole d'évangile, mais il faut que nous les mecs, on se bouge le cul. Pardonnez-moi d'être si vulgaire, mais là, c'est aussi à nous. 60% des aidants sont des aidantes, et je pense même que ça va plus loin. Hein.
Plus la personne à prendre en charge est âgée, et plus ce sont des femmes qui sont aidantes. Bon, après,
alors justement, alors si on change de paradigme de regard, si Bobo n'est plus disponible, il se passe quoi dans ce cas-là, les hommes, s'ils ont leurs proches aussi qui sont en situation d'être accompagnés, Bobo n'est plus là, elle a décidé de faire autre chose de sa vie, dire « moi, ça me concerne plus, vous vous débrouillez », il se passe quoi? Il se passe quoi? On nous a mis dans des situations où on dit « ne bouge pas, reste à ta place ». Et ça va très bien parce que tu tiens le système. Et quand on ne tient plus le système, il se passe quoi? Ouais. Le système en lui-même ne tient plus.
Tout à fait.
Donc Bobonne, elle n'est pas aussi à rester dans sa place d'aidante. Elle aspire à être un être humain qui a des aspirations, des envies. Elle a envie d'être en vie. Elle a envie de se développer en tant qu'être humain. Ça veut dire que, alors dans ce cas-là, si on veut que ce système tienne, donnez-nous les moyens pour rester, nous, debout humainement et avoir une vie en parallèle à côté de notre proche qu'on accompagne. Et on est d'accord sur ce point. Bobonne, à un moment donné, elle va s'épuiser. Elle va être aussi avoir des problèmes de santé. Et on continue à lui dire tiens, tiens bon, jusqu'à qu'elle s'épuise, il n'y a plus personne. Et tout ce système d'aidance ne tiendra plus, c'est son proche aussi qui va en pâtir.
Et justement, je rebondis sur ce que tu dis. Une vie d'aidance, c'est une vie qui est épuisante. Toi, ça a commencé très très tôt. Comment tu as fait? Parce que ce côté, nous les mecs, on fout rien, ne peut pas durer. C'est pas possible. C'est clair, net et précis. Alors on salue Laurent Manchon, notre ami du Finistère, qui se bouge le cul.
Et qui est d'ailleurs très réaliste là-dessus. Et il le dit lui-même en disant, c'est vrai que je suis là, mais c'est parce que j'ai mon épouse Christine. Et il est très au clair avec le fait que ça reste très rare que les hommes soient aussi présents.
On n'est pas là. On n'est pas là parce que ça nous arrange bien. Et tu l'as dit toi-même, à un moment, il faut que madame, elle ait quand même une vie. Parce que tu vas pas faire de 0 à 82 ans, aider les autres, et puis ça se trouve, même tu vas mourir avant ton aidé, comme ça arrive.
Un aidant sur 3.
Donc, il faut que ça bouge. Qu'est-ce que tu pourrais faire passer comme message? Est-ce que tu en as envie déjà de faire passer un message aux hommes? Parce qu'il faut pas que ça dure, là.
On parle souvent du girl power et de c'est le côté extrême du girl power. Parce que en face, il y a ce côté où on veut empêcher la femme de s'exprimer. C'est pas le but. C'est essayer de trouver un équilibre entre la relation homme-femme, sans s'opposer l'un avec l'autre, mais se dire faire alliance, en fait. La place de la femme, on en parle dans l'entreprise. C'est-à-dire, on parle de l'égalité au travail, en termes de salaire, la place de la femme. C'est comme si on devait toujours justifier notre existence, toujours justifier notre place, nos compétences. On n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. On n'est pas à hauteur des missions qu'on nous confie. On nous infantilise. On pense que pour nous faire évoluer dans une carrière, c'est comme ça, ce sera tel chemin. Mais est-ce qu'on interrogeait les personnes sur leurs aspirations, sur leurs besoins aussi? C'est une manière de se comporter avec les femmes. Nous sommes des adultes. Moi, j'ai 46 ans, j'ai pu être infantilisée. Je sais ce que je fais. Je fais le choix de ma vie. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Les femmes sont responsables, elles sont adultes. Elles ont des besoins comme les hommes, en fait, d'aspiration personnelle aussi et professionnelle. Pourquoi mettre une femme en infériorité par rapport aux hommes? Je veux dire, c'est le regard qu'on porte aussi sur elle. C'est incroyable qu'on me mette... Moi, on m'a toujours considéré ce regard comme quelqu'un d'à part. Je dois dégager quelque chose qui doit être assez particulier par ma façon d'être. Je me considère comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça veut dire que l'éléphant a une grande douceur, une grande intelligence. Et en même temps, par sa puissance, sa présence, on le met dans le magasin, il va écraser la porcelaine même avec la manière la plus délicate possible. Moi, je sens que j'ai cette énergie-là. Donc, j'ai toujours porté en moi. J'essaye d'adoucir. J'essaye de faire, d'arrondir les angles, d'être moins cash. Mais il faut dire les choses quand même. Donc, je sens que pour que le message puisse passer, il faut que qu'il faut que j'arrondisse, que j'apprenne les codes, que voilà, il y a tout un travail de suradaptation qui est là. Parce que si on dit les choses parfois de manière cash, bah, c'est pas entendu. Quand on parle de, ça dépend des personnalités, on est d'accord. Hein. Il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais moi, je crois beaucoup à la puissance de la douceur. C'est-à-dire que dire les choses, mais avec aussi de la rondeur, mais y aller franchement. C'est un subtil mélange. Comment j'ai fait? Bah, en étant dans cette position-là. C'est-à-dire, y aller, la patience, la persévérance, rien lâcher. Savoir lâcher parfois parce qu'on est épuisé, parce qu'il y a d'autres, savoir quelles sont ses priorités du moment. On ne peut pas traiter de tous les sujets. C'est une adaptation au jour le jour. C'est comme ça que j'ai grandi, en fait, avec cette puissance intérieure qui pourrait aussi, que j'apprends aussi à canaliser pour me faire entendre aussi, par rapport aussi à ce que moi j'ai envie de défendre. Et ça, c'est pas évident tous les jours parce qu'il y a des moments où j'y arrive pas, en fait. J'ai envie de vraiment dire les choses. Et quand je suis dans ce mode aussi un peu vindicative, on entend la colère, on n'entend plus mon message.
Surtout quand t'es une femme, on va le limiter à « elle est en colère et on n'entend plus le message », alors qu'on sait que si ça vient d'un représentant masculin, ça va venir donner de la puissance à son message,
oui,
alors que
fait.
La femme, ça vient éteindre le message.
Alors, en fait, voilà, je veux dire, on oppose toujours le masculin, le féminin, au lieu de faire l'alliance.
Oui, tout à fait.
Au lieu de faire travailler sur les complémentarités. C'est difficile, c'est de manière générale, c'est un sujet très complexe. Mais en France, c'est très culturel aussi. Peut-être on prend les pays du Nord, ils ont une autre approche. Plus égalitaire que qu'on l'a en France, mais voilà, c'est un travail. Là, on parle d'enfermement, de stéréotypes, on parle de l'aidance, mais là, on parle maintenant aussi de la place des hommes et des femmes. Quelle place on a envie d'avoir dans cette société là?
Et donc, petit message de service à tous les hommes, voire les femmes, qui écouteront cet épisode en nous disant « Non, 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 moi j'ai un exemple où mon mari prend soin de un tel. Non, 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 c'est pas vrai. Moi, je m'occupe de ma mère, de ceci. » Très bien. Néanmoins, les chiffres sont têtus. Ne prenons pas notre exemple particulier pour une généralité. Revenons aux chiffres. Et les chiffres sont ceux que l'on vous a dit. Les aidants sont avant tout des aidantes. Le fait est que aujourd'hui, ce rôle est davantage tenu par des femmes. Nous avons même un monsieur qui nous a donné ses explications sur le pourquoi, et qu'en plus, voilà, il y aura aussi une dimension culturelle. Donc, vous pouvez réagir, et on l'espère, mais revenons aux chiffres, et les chiffres sont têtus. Aujourd'hui, les aidants sont avant tout des aidantes, avec les risques collatéraux que ça produit, burn-out, effectivement. Eh bien, on vit plus pour soi, on vit pour l'autre, pétage de plomb, divers et variés, et c'est pas ça être un être humain. Alors, une chose qui m'interpelle dans tout ce que tu as décrit, Marina, dans ses capacités d'adaptation, de persévérance, et c'est une idée qui me travaille de plus en plus, c'est que pour moi, un aidant, c'est un entrepreneur. Il entreprend sa vie, il est tout le temps en train de déployer des nouvelles facultés, des nouvelles compétences, et pour moi, c'est typique de l'entrepreneur, ou en tout cas des caractéristiques qu'on attribue à un entrepreneur, parce qu'en fait, tu ne restes jamais devant le statu quo. Jamais, 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 jamais. Il n'y a pas de solution, tu les trouves. Et dans ce que tu as décrit, ça me confirme dans le fait que on nous assigne une place, mais en fait, quand tu es aidant, tu as une mentalité finalement d'entrepreneur. C'est ce que tu viens confirmer là dans tes mots.
On peut être... avoir une âme d'entrepreneur et avoir un besoin de sécurité, avoir besoin de ce poste de salarié. Donc ça, c'est savoir trouver trouver sa musique, ce qui est convient pour soi, en fait. Tout le monde n'est pas câblé pour devenir entrepreneur. Parce qu'il faut le dire aussi, quand on se lance en entrepreneuriat, il y a l'incertitude derrière, la précarité aussi. Certains choisissent cette voie parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce qu'il n'y a pas de place pour l'aidance en entreprise. Donc, on va lancer sa propre structure pour avoir la liberté d'action, de choisir le sujet sur quoi on veut travailler, parce que ça nous porte. Mais parfois, ça reste précaire. Il faut le savoir, ça aussi. Donc, en tant que salarié, quand on est en recherche d'emploi, c'est de valoriser ça sur son CV. On veut dire qu'il n'y a pas de ce trou-là, on a fait quelque chose dans ce moment-là. Ouais, ce que moi j'ai pu valoriser par mon expérience, voilà ce que j'ai à apporter à l'entreprise. Ça, c'est aussi se positionner, être acteur de sa vie professionnelle, sa vie personnelle, c'est aussi se positionner de valoriser ça, se reconnaître en tant qu'aidant, certes, mais aussi par rapport à des compétences que j'ai développées et valoriser ça sur son CV. C'est auprès de l'employeur. Plus il y aura de personnes qui oseront passer le pas, moins ce sera un problème. Parce que les employeurs auront l'habitude d'avoir de plus en plus...
De voir ça dans le CV.
Ça va arriver aussi avec les jeunes générations qui ont conscience aussi, qui vont aider aussi un proche.
Bien sûr.
Que va faire l'entreprise? Ça va faire partie aussi des points essentiels. Que vous proposez-vous si ça m'arrive? Et puis, si ça ne me va pas, ben moi, ma période d'essai ne me va pas, je m'en vais. Ça aussi, ça fait partie des nouvelles... Des nouveaux éléments que l'entreprise va prendre en compte. En fait, c'est les faits. En fait, c'est le nombre, c'est les faits, sujet de société qui va prendre l'ampleur dans les années à venir, de plus en plus, qui vont faire bouger les lignes aussi, parce que de plus en plus de monde, justement, vont être concernés. On ne peut plus ne pas réagir.
Oui, ça peut plus être...
L'entreprise est une entité d'être humain. C'est une entité vivante, faite d'être humain. C'est la base, hein. C'est une question de bon sens. Il faut revenir à du bon sens.
La chose qui est la moins partagée à travers ce monde, hélas. Je suis d'accord avec toi, Marina. Je crois qu'il va falloir que la voix des aidants porte de plus en plus. Et tu vois, j'avais jamais pensé au fait de mettre ça dans son CV. Bon, évidemment, moi, je ne cherche pas d'emploi. Mais c'est vrai que mettre ça dans un CV, avoir dit « je suis aidant depuis X années et voici ce que j'ai fait et j'ai fait en parallèle une carrière où je me suis arrêté », ce n'est pas une honte.
C'est pas une honte. Alors moi, ce que je peux dire, que maintenant, depuis peu, je le mets sur LinkedIn, hein, le fait que je sois aidante de mes parents sourds, et que voilà ce que j'ai développé comme qualité, des capacités d'écoute énormes, d'organisation énorme, de savoir aussi gérer mes priorités, de pouvoir aussi gérer les imprévus et trouver des solutions qui vont bien avec, d'être dans cette capacité d'adaptation, de pouvoir aussi être force de travail, et puis de savoir aussi être en relation en équipe, avec les autres, prendre l'avis de chacun, essayer de synthétiser. Moi, ce que j'ai vécu, ce n'est pas rien. Je sais que c'est une ressource incroyable et ce changement de regard fait aussi que regardons les aidants comme des ressources et non comme un problème. De manière générale, dans la société, ils ont énormément apporté. Et ce n'est pas des petites choses dans leur vie personnelle, remuer énormément de choses, traverser des choses émotionnellement aussi, savoir les gérer aussi, ça part pas de rien, quoi. C'est à voir, à dire que oui, il y a des difficultés, oui, on va pas les nier. On va pas les nier, ces difficultés, elles sont là. Mais aussi ça, cette expérience a apporté énormément de choses humainement. Ce qu'on dit pas, ce qu'on ne voit pas, c'est à mettre aussi à jour, en lumière, cet aspect-là.
La conclusion est parfaite. Les aidants ne sont pas des petites choses fragiles, mais comme tu le dis, il faut oser se reconnaître aidant, oser le valoriser, le faire savoir quand on est prêt. Et comme tu l'as dit, ça, c'est un travail personnel, sociétal, qu'il faut mener, continuer à mener. Et donc, tu le fais, nous le faisons et nous invitons tout le monde à le faire.
Et je rappelle, messieurs, qu'il va falloir se bouger. Merci. Bon, chers auditrices, chers auditeurs, tu es d'accord avec moi, Christelle, qu'on vient d'entendre des magnifiques conseils?
Évidemment.
Quelqu'un qui est quelque part un peu, entre guillemets, militant au bon sens du terme, et je trouve ça très bien, je le suis moi-même. Une femme qui s'est bougée depuis son plus jeune âge, qui aujourd'hui a monté Aidant & Co, qui va sensibiliser, ou en tout cas faire passer le message aux entreprises, qui en ont encore bien besoin et qui, pour certaines, disent que ce n'est pas encore la priorité. Bon, faut que ça bouge, ok? Donc, commencez déjà par bouger en mettant 5 étoiles sur...
Apple Podcast et Spotify.
Exactement, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez dire que Marina était absolument formidable, que Christelle était formidable et que moi, Laurent, j'étais naze. Ou l'inverse. Bon, allez, 5 étoiles Apple Podcast, 5 étoiles sur Spotify, j'en perds mon latin. Et on vous dit à très très vite pour un nouvel épisode de...
Battant.
Le podcast...
De tous les aidants.
Ciao, ciao.
Salut.
Salut.